Les inégalités dans les pays émergents, plus faibles qu'aux États-Unis. Examinons maintenant le cas des pays pauvres et émergents. Les sources historiques permettant d'étudier la dynamique de la répartition des richesses sur longue période sont malheureusement beaucoup plus réduites dès que l'on sort des pays riches. Il existe toutefois plusieurs pays pauvres et émergents pour lesquels on peut trouver des sources fiscales sur la longue durée permettant de faire des comparaisons approximatives avec les résultats obtenus pour les pays développés. Peu après avoir introduit un impôt progressif sur le revenu global en métropole, le colonisateur britannique décide de faire de même dans plusieurs de ses possessions. C'est ainsi qu'un impôt sur le revenu, assez proche dans sa conception de l'impôt introduit en 1909 au Royaume-Uni, voit le jour dès 1913 en Afrique du Sud et dès 1922 dans l'Empire des Indes, y compris l'actuel Pakistan. Le colonisateur néerlandais fait de même en instituant un impôt sur le revenu en Indonésie en 1920. Plusieurs pays d'Amérique du Sud introduisent l'impôt sur le revenu dans l'entre-deux-guerres, par exemple l'Argentine en 1932. Nous disposons pour ces quatre pays, Afrique du Sud, Inde, Indonésie et Argentine, de données fiscales débutant respectivement en 1913, 1922, 1920 et 1932, et se prolongeant, avec des lacunes, jusqu'aux années 2000-2010. Ces données sont de même nature que celles dont nous disposons pour les pays riches et peuvent être exploitées en utilisant les mêmes méthodes, et en particulier les estimations de revenus nationaux réalisées dans ces différents pays depuis le début du XXe siècle. Les estimations obtenues sont indiquées sur le graphique 9.9. Plusieurs points méritent d'être soulignés. Tout d'abord, le résultat le plus frappant est sans doute que les ordres de grandeur obtenus pour la part du centile supérieur dans le revenu national dans les pays pauvres ou émergents sont en première approximation extrêmement proches de ceux observés dans les pays riches. Pendant les phases les plus inégalitaires, en particulier au cours de la première moitié du XXe siècle, des années 1910 aux années 1940, le centile supérieur détient autour de 20% du revenu national dans les quatre pays considérés, environ 15-18% en Inde et jusqu'à 22-25% en Afrique du Sud, en Indonésie et en Argentine. Pendant les phases les plus égalitaires, c'est-à-dire essentiellement des années 1950 aux années 1970, la part du centile supérieur tombe à des niveaux compris entre 6% et 12% suivant les pays, à peine 5-6% en Inde, 8-9% en Indonésie et en Argentine, 11-12% en Afrique du Sud. On assiste un peu partout à une remontée depuis les années 1980 de la part du décile supérieur qui se situe dans les années 2000-2010 aux alentours de 15% du revenu national, autour de 12-13% en Inde et en Indonésie et 16-18% en Afrique du Sud et en Argentine. Nous avons également représenté sur le graphique 9.9 deux pays pour lesquels les sources fiscales disponibles permettent d'étudier uniquement les évolutions en cours depuis le milieu des années 1980 et le début des années 1990, la Chine et la Colombie. On observe en Chine une forte progression de la part du centile supérieur dans le revenu national au cours des dernières décennies. Mais en partant d'un niveau relativement bas au milieu des années 1980, presque scandinave, moins de 5% du revenu national pour le centile supérieur, d'après les sources disponibles, ce qui n'est pas très étonnant s'agissant d'un pays communiste, caractérisé par des grilles salariales très compressées et une quasi-absence de revenus du capital privé. La hausse des inégalités chinoises a été très rapide à la suite du mouvement de libéralisation de l'économie des années 1980 et pendant la croissance accélérée des années 1990-2000. Mais, d'après nos estimations, la part du décile supérieur se situe dans les années 2000-2010 autour de 10-11% du revenu national, soit un niveau inférieur à l'Inde et à l'Indonésie, autour de 12-14%, soit approximativement le niveau du Royaume-Uni ou du Canada, et très nettement inférieur à l'Afrique du Sud et à l'Argentine, autour de 16-18%, soit approximativement le niveau des États-Unis. La Colombie apparaît au contraire comme l'un des pays les plus inégalitaires enregistrés dans la World Top Incomes Database. La part du centile supérieur se situe aux alentours de 20% du revenu national tout au long des années 1990-2010, sans tendance claire. Il s'agit d'un niveau d'inégalité encore plus élevé que celui atteint par les États-Unis dans les années 2000-2010, tout du moins si l'on exclut les plus-values. En incluant les plus-values, les États-Unis ont légèrement dépassé la Colombie au cours des 10 dernières années. Il faut cependant souligner de nouveau les limitations considérables des données dont nous disposons pour mesurer la dynamique de la répartition des richesses dans les pays pauvres et émergents et pour faire des comparaisons satisfaisantes avec les pays riches. Les ordres de grandeur que nous venons d'indiquer sont les plus fiables auxquels nous pouvons parvenir compte tenu des sources disponibles, mais la vérité est que nos connaissances restent fort maigres. Dans les rares pays émergents pour lesquels on dispose de données fiscales depuis les premières décennies du XXe siècle, il existe de multiples lacunes et interruptions dans les données, souvent dans les années 1950-1970, au moment de l'indépendance, comme en Indonésie. Nous essayons actuellement d'inclure dans notre base de données historiques de nombreux autres pays, en particulier parmi les ex-colonies britanniques et françaises en Indochine, en Afrique du Nord et en Afrique centrale et occidentale, mais il est souvent difficile de faire le lien entre les données de l'époque coloniale et les sources fiscales contemporaines. Lorsque les données fiscales existent, leur intérêt est en outre réduit par le fait que l'impôt sur le revenu dans les pays moins développés ne concerne souvent qu'une petite minorité de la population, si bien par exemple que l'on peut estimer la part du centile supérieur dans le revenu total et non celle du décile supérieur. Lorsque les données le permettent, comme pour l'Afrique du Sud pour certaines sous-périodes, on constate que les plus hauts niveaux observés pour la part du décile supérieur sont de l'ordre de 50-55% du revenu national, soit un étiage comparable, ou légèrement plus élevé, au plus haut niveau d'inégalité observé dans les pays riches, en Europe en 1900-1910 ou aux États-Unis en 2000-2010. On constate par ailleurs une certaine détérioration des données fiscales à partir des années 1990-2000. Cela est dû en partie à l'arrivée des fichiers numériques qui conduisent souvent les administrations à interrompre les publications statistiques détaillées qui existaient dans les époques plus anciennes où elles en avaient elles-mêmes besoin, ce qui peut paradoxalement mener à une détérioration des sources d'information à l'âge du numérique. On observe le même type de phénomène dans les pays riches. Lorsque l'on peut accéder aux fichiers fiscaux, la numérisation constitue bien sûr une amélioration des sources d'information. Mais si les fichiers sont inaccessibles ou bien mal archivés, ce qui arrive souvent, alors la disparition des publications statistiques en papier peut conduire dans de nombreux cas à une perte de mémoire fiscale et historique. Mais cela semble surtout correspondre à une certaine désaffection pour l'impôt progressif sur le revenu en général, aussi bien au sein des organisations internationales que chez certains gouvernements. Un cas particulièrement emblématique est celui de l'Inde, qui a totalement cessé au début des années 2000 d'établir et de publier les dépouillements détaillés issus des déclarations de revenus qui existaient pourtant sans discontinuer depuis 1922. La conséquence étrange est qu'il est plus difficile d'étudier l'évolution des hauts revenus en Inde en ce début de XXIe siècle qu'au cours du siècle passé. Ce manque d'information et de transparence démocratique est d'autant plus regrettable que la question de la répartition des richesses et des fruits de la croissance se pose avec au moins autant d'acuité dans les pays pauvres et émergents que dans les pays riches. Il faut également souligner que la très forte croissance officiellement enregistrée dans les pays émergents au cours des dernières décennies, notamment en Inde et en Chine, provient presque exclusivement des statistiques de production. Lorsque l'on tente de mesurer la progression des revenus en utilisant des enquêtes portant sur les budgets des ménages, il est souvent bien difficile de retrouver les taux de croissance macroéconomique annoncés. Les revenus indiens et chinois progressent certes à des rythmes élevés, mais nettement moins élevés que ceux prévus par les statistiques de la croissance officielle. Ce paradoxe du trou noir de la croissance dans les pays émergents est évidemment problématique. Cela peut venir du fait que la croissance de la production est surestimée. Il existe de multiples incitations administratives à manipuler les flux de production. Ou bien que la croissance du revenu est sous-estimée. Les enquêtes auprès des ménages ont aussi leurs imperfections. Ou plus sûrement, les deux à la fois. En particulier, cela peut également s'expliquer par le fait que les plus hauts revenus, particulièrement mal enregistrées dans les enquêtes déclaratives, ont capté une part disproportionnée de la croissance de la production. Dans le cas de l'Inde, on peut estimer, sur la simple base des revenus déclarés, que la progression de la part du centile supérieur dans le revenu national constaté grâce aux données fiscales permet d'expliquer à elle seule entre un quart et un tiers du trou noir de croissance entre 1990 et 2000. Compte tenu de la détérioration des statistiques fiscales dans les années 2000, il est impossible de prolonger correctement cet exercice de décomposition sociale de la croissance. Dans le cas de la Chine, les statistiques établies par l'administration fiscale sont encore plus rudimentaires que pour l'Inde et témoignent du manque absolu de transparence des autorités chinoises sur ces questions. Dans l'état actuel des choses, les estimations indiquées sur le graphique 9.9 et que nous citons ici sont les plus fiables auxquelles on puisse parvenir. Mais il est urgent que des données plus complètes soient rendues publiques par les administrations de ces deux pays, comme d'ailleurs de tous les pays. Quand cela sera fait, peut-être se rendra-t-on compte que l'inégalité en Inde et en Chine a progressé plus vite qu'on ne l'imaginait. En tout état de cause, on remarquera que, quelle que soit l'imperfection des administrations fiscales des pays pauvres et émergents, les données issues des déclarations de revenus permettent de faire apparaître des niveaux de hauts revenus beaucoup plus élevés et beaucoup plus réalistes que les enquêtes auprès des ménages. Par exemple, les déclarations fiscales permettent de constater que le centile supérieur détient à lui seul plus de 20% du revenu national en Colombie dans les années 2000-2010 et près de 20% en Argentine. Il est possible que l'inégalité réelle soit plus élevée encore. Mais le fait que les revenus les plus élevés déclarés dans les enquêtes menées dans ces mêmes pays sont souvent à peine 4-5 fois plus élevés que le revenu moyen, personne n'est vraiment riche, si bien que la part du centile supérieur est généralement inférieure à 5% du revenu national selon ce type de source, semble peu crédible. On voit à quel point les enquêtes auprès des ménages, qui constituent souvent l'unique source utilisée par les organisations internationales, en particulier par la Banque mondiale, et les gouvernements pour mesurer les inégalités, contribuent à donner une vision biaisée et faussement apaisée de la répartition des richesses. Tant que les estimations officielles ne compléteront pas les données d'enquête par une utilisation systématique des données administratives et fiscales, il sera impossible d'aboutir à des décompositions crédibles du taux de croissance macroéconomique entre les différents groupes sociaux en présence et les différents déciles et centiles de la hiérarchie des revenus, dans les pays pauvres et émergents comme dans les pays riches.